Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Orient, votre rendez-vous de l'information de la mi-journée avec Nawal El Amouchi et François-Xavier de Calonne. Au sommaire de ce point actualité, c'est l'heure de vérité pour Sébastien Lecornu après des semaines de crise politique. Le Premier ministre va prononcer cet après-midi sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée. Il va devoir convaincre les députés s'il ne veut pas être censuré. Donald Trump a proclamé hier un jour formidable pour le Moyen-Orient lors d'un sommet sur Gaza en Égypte. Il a co-signé une déclaration qui vise à cimenter le cessez-le-feu à Gaza après un échange d'otages et de détenus entre Israël et le Hamas. C'est notre dossier du jour à suivre. Et au Maroc, le mouvement Génération Z212 annonce la reprise de ses manifestations nationales pour réclamer une meilleure éducation, santé et la libération des détenus d'opinion. Dans l'actualité en France, sur les grandes lignes du budget 2026 présenté cet après-midi à l'Assemblée, le gouvernement de Sébastien Lecornu prévoit le gel des retraites de base et des prestations sociales, dont les allocations familiales. Dès 2027, les pensions seraient sous-indexées de 0,4 points par rapport à l'inflation. Le remplacement de l'abattement de 10% sur les retraites par un abattement forfaitaire de 2000 euros est également prévu. Et le budget inclut aussi la suppression de 3119 postes de fonctionnaires et une baisse des dépenses de l'État avec un effort fiscal concentré sur les plus aisés. Marine Le Pen dénonce un budget terriblement mauvais et annonce vouloir censurer le gouvernement. Des motions de censure portées par le Rassemblement national et la France insoumise seront examinées ce jeudi matin à l'Assemblée nationale. Et toujours sur ce budget, le Haut Conseil des finances publiques alerte sur des prévisions de croissance jugées trop optimistes. Ce texte sur le budget 2026 pourrait être largement modifié au Parlement. Dans l'actualité au Proche-Orient, Donald Trump a proclamé hier un jour formidable pour le Moyen-Orient lors d'un sommet sur Gaza en Égypte. Il a co-signé une déclaration qui vise à cimenter le cessez-le-feu à Gaza après un échange d'otages et de détenus entre Israël et le Hamas. La Maison-Blanche parle d'un pas décisif vers la paix durable. Et Emmanuel Macron a confirmé que la France soutiendra le déploiement d'une force onusienne à Gaza et qu'elle jouera un rôle spécial dans la gestion future du territoire. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a annoncé une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza. Et enfin, au Maroc, le mouvement Génération Z212 annonce la reprise de ses manifestations nationales pour réclamer une meilleure éducation, une meilleure santé et la libération des détenus d'opinion. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Donald Trump a proclamé ce lundi un jour formidable pour le Moyen-Orient. C'était lors d'un sommet sur Gaza en Égypte. Le président des États-Unis a co-signé une déclaration qui vise à cimenter le cessez-le-feu dans le territoire palestinien. Et cela après un échange d'otages et de détenus entre Israël et le Hamas. On fait le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, Nawal, les mots de Donald Trump sont à prendre avec des pincettes, même si les armes se sont tues. Ces propos contrastent avec la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, des infrastructures médicales dévastées, de très nombreuses familles endeuillées dans cette enclave palestinienne en proie à la famine. Après les propos de l'hôte de la Maison-Blanche, Robert Malley, ancien conseiller pour le Moyen-Orient des présidents Clinton, Obama et Biden, souligne que ce plan n'aboutit ni à la fin du conflit à Gaza et encore moins à la fin du conflit israélo-palestinien. Il évoque des relents néocoloniaux alors que les dirigeants palestiniens n'ont pas contribué à ce plan. Et ce qui est notable, bien entendu, le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, dévastée par 2 ans de guerre. Le Hamas a libéré les 20 derniers otages vivants qu'il retenait en échange de 1968 prisonniers palestiniens relâchés par Israël.
Et à l'origine du plan sur un cessez-le-feu à Gaza, Donald Trump a donc co-présidé le sommet à Sharm el-Sheikh avec le président égyptien en présence de nombreux dirigeants internationaux, mais sans le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ni le Hamas.
Oui, avec les dirigeants d'Égypte, du Qatar et de Turquie, le président des États-Unis a ensuite signé une déclaration sur Gaza dans laquelle il s'engage à poursuivre une vision de paix au Moyen-Orient. Ce document s'en tient néanmoins à des termes vagues sur le besoin de parvenir à une paix durable entre Israël et ses voisins, dont les Palestiniens. Donald Trump a, dans l'avion du retour à Washington, évacué la question de la solution à deux États. De son côté, le président égyptien a annoncé que son pays allait accueillir une conférence sur la reconstruction de Gaza sans donner de date. Pour le moment, la France, qui a reconnu l'État palestinien le 22 septembre dernier, se félicite de la concrétisation de cette première phase. Mais Emmanuel Macron est revenu depuis Sharm el-Cheikh sur les incertitudes qui perdurent.
Commençons le travail sur la gouvernance, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté qui demeure sur ce sujet. On le sait bien. Dans le plan américain, il y a un conseil de la paix, puis deux comités, un comité international et un comité palestinien. Il y a à côté de ça tout un travail que nous avons suivi, accompagné, qui s'est fait depuis plusieurs trimestres, coordonné par l'Égypte, la Jordanie, mais avec tous les golfiques, et notre suivi qui a permis d'établir en fait ce qui est déjà un comité palestinien avec un processus de validation israélienne. Nous poussons pour que ce soit ce comité qui puisse s'installer le plus vite possible, qui permet de donner sa place à l'autorité palestinienne, d'assurer la coordination avec la Cisjordanie et qui est validée par Israël.
Notons que le plan Trump prévoit dans une phase ultérieure le désarmement du Hamas et son exclusion de la gouvernance du territoire où le mouvement islamiste a pris le pouvoir en 2007. Mais vous l'avez entendu, des zones d'ombre perdurent. Le Hamas ne s'est pas prononcé sur son désarmement. Il exige un retrait total israélien de la bande de Gaza. L'armée israélienne contrôle aujourd'hui 53% du territoire. Un responsable du Hamas a dit prévoir une deuxième phase difficile des négociations.
Merci François-Xavier de Calonne pour toutes ces précisions. Et le président Trump s'est adressé au Parlement israélien. Il a salué lobby historique d'un nouveau Moyen-Orient. Mais s'agit-il d'un tournant historique? On écoute à ce sujet Alain Diekhoff, directeur de recherche au CNRS et ancien président du CERI.
On vit un moment historique, surtout par rapport à ce qui s'est passé depuis deux ans, en fait. C'est-à-dire, on se dirige quand même vers la fin de cette guerre à Gaza qui a duré deux ans. Donc deux années, c'est énorme. Il n'y a jamais eu un conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe qui a duré aussi longtemps et qui a causé autant de morts. Ça, c'est et surtout civil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est qui est notable. On est dans un moment tournant où on va sortir de ce conflit qui était évidemment sur place pour les populations concernées, mais qui a eu des résonances, on l'a vu, régionales, qui a même débordé régionalement, d'abord sur le Liban, ensuite un petit peu, c'était un peu plus marginal, mais ça comptait quand même le Yémen avec les Houthis, et puis finalement aussi quand même une guerre certes limitée, mais entre l'Iran et Israël, tout de même au mois de juin dernier. Donc on va certainement sortir de cette phase-là, mais bien évidemment, c'est quelque part une sorte de période qui se termine. Mais si on ne veut pas que tout cela retombe et qu'on reprenne les mêmes mauvaises habitudes que celles qui ont existé au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire finalement arrêter la violence et puis espérer, en ne faisant rien dans le fond, que ça se réglera par soi-même, évidemment, ça n'arrivera pas. Donc, on reviendra vers un conflit.
Le président Trump, on se rappelle de son plan, son premier plan qui constitue à transformer la bande de Gaza en riviera à la française. Finalement, il est revenu avec un deuxième plan qui comprend 20 points. Aujourd'hui, c'est la première phase. C'est la phase suivante qui sera beaucoup plus difficile.
Oui, alors, bien évidemment. Je dirais que là, on a fait la chose la plus simple. Dans le fond, le cessez-le-feu, le retour des otages et la libération de prisonniers palestiniens. Mais après, c'est là que ça va se compliquer. C'est-à-dire que la question du désarmement du Hamas, la question de la mise en place de cette autorité administrative qui gérerait la bande de Gaza, donc le Hamas a déjà dit qu'il ne voulait pas s'en occuper, donc ça c'est déjà plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'on devrait pouvoir trouver des personnes prêtes à le faire, mais bon, ce ne sera pas nécessairement non plus facile. Et après, lié à ça, il y aura le retrait progressif des 50% qui continuent à être occupés, de la bande de Gaza qui continue à être occupée par l'armée. Donc, on sera dans des négociations sur des détails, mais qui sont très importants, parce que comme déjà il n'y a même pas de contact entre les parties évidemment directes, tout passe toujours par des intermédiaires, les Égyptiens, les Qataris, les Turcs pour l'essentiel, et bien évidemment, ça va être singulièrement compliqué. Et puis, il faudra vraiment négocier de façon très très précise chaque point, avant de pouvoir passer à une étape, espérons-le, plus politique.
C'était Alain Diekhoff, directeur de recherche au CNRS et ancien président du CERI, au micro de Loïc Barrière. C'était les dossiers du jour. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.